Bonjour à toi cher auditeur, auditrice, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, un podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral, mais aussi aux personnes passionnées, passionnantes, engagées et engageantes du monde de la mer. Aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir au micro de ce podcast une grande amie, Pascaline Diodé. Pascaline est actuellement ingénieure en recherche et développement chez Enixo Engineering. Elle a travaillé sur de nombreux projets de recherche en tant qu'ingénieure à l'INRAE, au CIRAD et au CNRS. Oui, de grands noms de centres de recherche. Nous nous sommes aussi rencontrés dans le cadre de notre master en sciences de l'eau, dans lequel Pascaline était spécialisée en eau contaminante et santé. Pascaline, c'est la personne à laquelle on se réfère lorsqu'on a des questions en sciences sur des matières plutôt complexes, comme la microbiologie ou les contaminants des milieux aquatiques, en gros tout ce qui touche le microscopique. Car elle a le don d'expliquer l'inexplicable et rendre compréhensibles les cours de bio que personne ne comprenait. Enfin bref, elle devait prendre place dans ce podcast, car avec Pascaline, on va parler d'un sujet important et qu'elle a étudié en tant qu'ingénieure d'études au CIRAD, la contamination des pesticides dans les milieux aquatiques en Martinique, mais aussi de bio- et phytoremédiation, de Green Tech et de la directive cadre-loi sur l'eau. Salut Pascaline.
Salut Louise.
Je suis trop contente de t'avoir dans Parlons Peu, Parlons Bleu, comment tu vas ?
Mais moi aussi, je suis trop contente d'être là pour parler de tout ça, des sujets pas du tout réjouissants, mais on va dire ça dans la bonne humeur. Hein.
On va avoir fait. Allez. Oui. Dans la bonne humeur, on est positive. Bon, écoute, je t'ai rapidement présenté dans cette introduction que tu as écoutée, mais peux-tu du coup te présenter de la manière dont tu le souhaites ?
Donc, moi je m'appelle Pascaline Diodé. Je suis, comme tu l'as dit, ingénieure en recherche et développement, donc dans une entreprise. Là, je travaille sur la phytoremédiation par traitement algal. Et j'ai un parcours qui est assez riche et avec de multiples tournants, on va dire. Moi, j'ai fait en sorte de me spécialiser dans la contamination des milieux aquatiques. Donc pour ça, j'ai étudié, le triangle des contaminations. Donc on estime en général qu'on a trois grands types de contaminants, les contaminants biologiques, les contaminants organiques et inorganiques. Du coup, moi, j'ai bossé sur les trois. Donc, j'ai fait ça dans les cadres de mes stages d'études, en fait. Donc, j'ai fait un UT en génie biologique, suivi d'une licence en microbio, et j'ai fait un master ensuite en risque industriel et urbain, parce que, bah voilà, tous ces cas-là de pollution, ça m'intéressait de ouf. Et j'ai fait un stage à l'INRAE sur la contamination des métaux, donc moi j'étudiais une technique d'échantillonnage en gros, et après ça j'ai changé de master parce que je voulais vraiment me spécialiser dans l'eau, et j'ai fait du coup celui dans lequel on s'est rencontrés, le master contaminant eau et santé, donc dans les sciences de l'eau à Montpellier. Et au cours de ce master, j'ai fait donc un premier stage en première année qui était donc au sein du CNRS. Plus précisément dans le laboratoire hydrosciences de Montpellier, et c'était sur l'étude de l'émergence de bactéries antibiorésistantes dans la plastisphère. Donc la plastisphère, c'est en gros tous les déchets plastiques qui se retrouvent dans les eaux, donc les eaux douces et les eaux de mer. Voilà, et donc pour finir ce triangle des contaminations, là je suis partie pendant 2 mois en mission de terrain en Martinique, pour étudier la contamination des pesticides, donc dans un bassin versant, le bassin versant du Galion, qui fait 45 km². Et j'ai fait ensuite toutes mes analyses donc au sein d'un laboratoire en métropole. Donc en tout, c'était un stage qui a duré 6 mois. Et voilà, donc j'ai réussi à me spécialiser. J'ai fini ma spécialisation. Et maintenant, je peux parler de tous les sujets pas drôles du truc de l'eau.
La pollution, ça j'en adore ça.
Allez.
mais juste avant, justement, parce que du coup, on va principalement parler de ton étude justement en Martinique. Mais avant ça, juste, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ton travail actuel du coup chez Enixo Engineering. Tu as parlé de phytoremédiation. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est la phytoremédiation pour nos éditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est?
Alors, la phytoremédiation, donc, je vais faire de l'étymologie, je détestais ça en cours, mais en gros, phytose, donc c'est les plantes, et épuration, donc c'est tout ce qui est, en gros, décontamination de l'eau, pas dans le sens contaminant, au sens vraiment spécifique du terme, c'est plus rendre l'eau propre et habiliter à la consommation humaine, en l'occurrence, et phyto, donc les plantes. Et la phytoépuration, ça peut être utilisé avec différents organismes, on va dire. Ça peut être avec des plantes, ça peut être avec des procédés plus doux, on va dire. On parle de la lagune, on rentre pas particulièrement dans la phytoépuration, mais ça fait partie des grands procédés. Et après, donc moi, je travaille plus particulièrement sur des micro-algues, donc qu'on développe dans nos stations. Donc c'est des stations qui sont dites à énergie positive, dans le sens où on va avoir une captation du carbone grâce aux algues qui sont contenues dans nos lagunes et dans nos photobioreacteurs. Et derrière, en fait, on va pouvoir créer d'énergie avec, par exemple, du biogaz qui va être consommé, enfin, qui va être produit par les bactéries et qui consomment nos effluents. Donc voilà, c'est notre petit secret.
D'accord, trop bien. Et du coup, toi, tu es en charge de faire quoi ?
Moi, je développe tous les produits qui sont à base d'algues, donc je peux pas beaucoup en parler parce qu'il y a pas mal de secrets professionnels là-dedans. On a nos secrets de process, mais on travaille avec des algues pour notamment donc là des projets qui sont sortis. Donc on a une station qui s'appelle la NX Step. C'est une station voilà qui fonctionne par bioremédiation algale. On a des projets aussi voilà de photobioreacteurs qui pourront développer à différentes échelles. Notamment en Amérique du Sud, on a quoi d'autre ? On a des projets de décarbonation, donc en gros, on va traiter des fumées pour les rendre moins dégueux, on va dire. Et voilà, en fait, le CO2 contenu dans ces fumées va pouvoir être digéré par les bactéries. Donc voilà, c'est plutôt chouette, plutôt pratique.
Voilà, comme j'avais dit, tu sais raconter les choses compliquées et les dire tellement simplement et compréhensible, c'est incroyable.
Alors, on récolte le pet des bactéries et on en fait du gaz.
Voilà, c'est simple.
En gros, c'est ça.
Mais donc, du coup, donc avant de faire ça, tu as fait ton stage du coup de fin d'études au CIRAD, sur la cartographie de la contamination en pesticides des eaux superficielles du bassin versant, du Gallon en Martinique, je lis exactement l'intitulé sur ton CV que j'ai devant les yeux, par échantillonnage passif type POSIS. Je prononce bien
voilà. Et là, t'as tout compris, hein.
J'ai tout compris, complètement. Alors, raconte-moi pourquoi, qu'est-ce que tu as fait et quels sont du coup... La problématique de base à laquelle on va répondre, ça sera mais quel est l'impact du coup de ces pesticides, d'où ils viennent et quel est l'impact de ces pesticides sur les milieux aquatiques et pourquoi c'est important d'en parler.
Ok, alors déjà je vais t'expliquer le titre.
Oui, moi c'est vrai.
Donc, quand on étudie une contamination, une cartographie, ça veut dire on sait qu'il y a de la pollution dans la superficie qu'on étudie. Mais on ne sait pas précisément dans quelle mesure en fonction de la localité, en fait. Donc là, moi, j'avais tout un bassin versant, donc ça veut dire que j'avais toutes les sections de rivière. Et en fait, on voulait savoir précisément, on sait que les sections sont plus ou moins contaminées, mais on veut savoir si ça vient des cultures qui sont au-dessus. Parce qu'en fait, les pesticides, ils ont une activité assez particulière dans l'environnement. En gros, ils sont pulvérisés sur la plante, et après... Il y a plusieurs cas. Soit directement quand l'eau de pluie va tomber, ça va ruisseler sur le sol, on appelle ça un lessivage, après ça va tomber dans la rivière. Après, en fonction de leurs caractéristiques, donc de ces contaminants, si jamais ils aiment plus aller dans l'eau, ou si jamais, donc ça veut dire s'ils sont plus hydrophiles, ou si jamais ils préfèrent se stocker sur les matières organiques, donc si jamais ils sont plus hydrophobes, ils vont se diluer plus ou moins dans l'eau, et après on va les retrouver en amont. En aval de ces rivières, et après, donc, à terme, surtout dans le cas du Nil, dans la mer. Ou alors, donc, si jamais ils sont pulvérisés, je sais pas, par exemple, à la base du pied, ça peut être stocké dans le sol. Donc là, c'est le cas d'une molécule que j'ai beaucoup qui a été beaucoup utilisée en Martinique et que j'ai pas mal étudiée parce qu'elle se stocke longtemps, c'est la chlordécone. C'est une molécule qui se stocke dans les sols. Et en fait, après, ça fait exactement comme un sachet de thé. Ça se diffuse pendant des années et des années et des années dans le sol. Et quand je dis ça diffuse, ça veut dire que c'est vraiment libéré dans les eaux qui pénètrent en profondeur dans le sol et qui après vont ressurgir un peu plus loin dans les rivières ou dans les nappes phréatiques. Derrière, ça pose des gros soucis. Donc c'est pour ça qu'on fait de la cartographie. C'est pour savoir à peu près d'où ça vient. Donc ça, voilà, c'est pour première partie, donc cartographie de la contamination en pesticides, et après l'échantillonnage passif, en gros, pour étudier ces contaminations. Donc tu as plein de modes d'études. En fait, tu peux prélever de façon ponctuelle de l'eau, tu peux installer des petits préleveurs qui vont prélever du coup en continu de l'eau et étudier un peu tout le temps ta contamination que tu as dans l'eau, sauf qu'en fait, la contamination des cours d'eau, je vais beaucoup dire contamination, ça va être tout le temps, mais du coup, pour étudier les concentrations contenues dans les eaux, le souci c'est que, en fait, c'est pas du tout constant dans le temps, t'as énormément de variations dans ton petit graphique en gros en dents de scie, sauf que si tu fais que des prélèvements ponctuels, tu peux pas forcément voir tous les pics, c'est pas hyper représentatif. Si jamais tu fais un prélèvement tout le temps, là, tu peux voir les pics, sauf que c'est hyper contraignant. Et derrière, enfin, faut savoir que pour analyser un prélèvement, il te faut plusieurs journées. Alors, si tu fais des prélèvements tout le temps, en fait, c'est juste une charge de travail pas possible et c'est pas forcément réalisable. Surtout en Martinique où il fait très chaud et où tu ne peux pas forcément conserver tes échantillons dans des conditions froides, parce qu'un échantillon chaud est un échantillon qui se dégrade. Donc ça pose pas mal de soucis de stabilité, en particulier dans les conditions tropicales dans lesquelles j'étais. Et donc l'échantillonnage passif, c'est une petite membrane qui s'appelle un POSIS. Donc c'est pour Polar Organic Integrative Sampler. Ouais, c'est ça. Faudra revérifier sur Google. Et du coup, c'est une petite membrane qu'on pose dans l'eau. Donc, c'est un échantillon intégratif parce que du coup, tu le laisses dans l'eau pendant plusieurs jours. Moi, c'était 3 semaines pendant laquelle j'ai laissé les petites membranes. Et après, en fait, tout au long de son immersion, elle accumule les polluants parce qu'en fait, la phase absorbante que tu as dessus, ça, elle est chargée de manière à attirer en fait les molécules d'intérêt. Et donc, moi, j'avais immergé ça dans ça ressemble à des grosses passoires, en gros, que tu mets dans l'eau, tu les immerges, ça prend en eau, ça accumule, et après, derrière, moi, je vais extraire les polluants qu'il y a sur la phase avec des petits composés chimiques pour décrocher les polluants hyper accrochés à leur filtre, là, et les quantifier, quoi, concrètement.
D'accord. Et mais du coup, cette molécule, c'est quoi les impacts, enfin, qu'est-ce qu'elle cause, cette molécule que tu as étudiée?
Alors j'en ai
étudié. Tu me rappelles le nom? Attends, oui, parce que tu m'en as sorti. T'as dit le nom d'une molécule?
Ouais. Là, c'est la plus. Enfin, en gros, c'est la plus problématique et puis la plus connue aussi en Martinique. Ça s'appelle la chlordécone. C'est un. Ouais. C'est un insecticide qui a été utilisé sur la banane, donc contre le charançon du bananier. C'est un petit insecte qui se loge dans la tige du bananier, puisque le bananier n'est pas un arbre, mais une grande herbe, en gros. Et du coup, cet insecte se niche dans le tronc et le bouffe à la racine. Donc, en gros, ça nuit aux récoltes. C'est vraiment une perte de rentabilité. Puis, oui, ça peut tuer les bananiers, quoi. Donc, ça a été utilisé pendant 21 ans, donc de 72 à 93. Et en fait, c'est vraiment une molécule qui fait énormément polémique en Martinique et encore aujourd'hui parce qu'en fait, elle cause encore aujourd'hui malheureusement des cancers de la prostate, des problèmes de fertilité, des soucis de pendant la gestation aussi de la mère à l'enfant. Ça pose pas mal de problèmes. Donc ça, c'est la molécule la plus problématique en fait, et celle que j'ai vraiment retrouvée de partout. Et aussi, j'étudiais tous les autres pesticides, notamment l'AMPA, donc qui est un produit de dégradation du glyphosate, pas mal de fongicides, des herbicides, l'imalazil, du propiconazol, enfin pas mal de petites molécules que t'as pas envie de retrouver chez toi. Mais en fait, on en retrouve beaucoup, mais c'est pas, enfin. On en retrouve beaucoup en Martinique, mais on en retrouve aussi beaucoup en métropole et dans tous les pays d'Europe, malheureusement, parce que l'agriculture est dépendante de ces molécules-là. Donc derrière, alors je connais pas exactement les effets des autres, mais en fait, t'as majoritairement des soucis de cancérogènes, hein, majoritairement des problèmes de nocifs, enfin parce que c'est des produits extrêmement nocifs. Si ça agit sur les abeilles et sur tous les autres insectes, bien évidemment, ça peut agir sur l'homme en petite ou grande dose, hein. Notamment sur les personnes qui travaillaient dans les champs. et aussi sur les personnes qui habitent autour, puisque bah, si jamais ça lessive dans les rivières, bien évidemment, la rivière, ça fait des kilomètres et des kilomètres de long. Donc, ça impacte une immense population en aval. C'est... Ouais. C'est pas drôle comme sujet, okay. Surtout...
Mais j'aimerais bien juste relever un truc que tu as dit, c'est la dépendance de l'agriculture, justement, de ces pesticides. Comment ça se fait qu'elles deviennent indépendantes, ces terres?
Alors, ça dépend vraiment des régions. En Martinique, de ce que j'ai vu, en tout cas, c'est une zone vraiment tropicale, donc t'as tout le temps des nuisibles, en fait. T'es obligé d'utiliser certains pesticides pour avoir des rendements, en fait, appropriés à la survie des agriculteurs, en fait, tout simplement. Et le CIRAD œuvre beaucoup à renverser un peu cette tendance en développant des molécules qui sont biologiques, issues des plantes. Et après, en métropole et de manière globale, je pense que c'est... Alors là, ça va... Je vais rentrer dans la polémique si tu me lances dans des sujets comme ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu les laboratoires qui ont fait en sorte que cette dépendance existe. Enfin, tout ce qui est ces molécules-là, il y en a certaines qui ont été développées par des industries, pour ne pas la nommer, comme Bayer ou des choses comme ça, qui ont fait en sorte que... Voilà. Ce qui est bizarre, tu vois, c'est que des fois, les personnes qui synthétisent ces molécules-là, derrière, elles ont aussi des branches en engrais, elles ont aussi des branches en graines, notamment, par exemple, tu as des maïs. Normalement, le maïs, tu peux totalement le ressemer toi-même, en fait, récolter tes grains et puis après les refaire germer. Là, ils sont en train de, enfin, je sais pas si c'est encore fourni, mais en fait, on te vend des graines stériles. Et du coup, t'es obligé de racheter des graines. Et si jamais, par exemple, tu as des pertes de rendement sur ces plants-là, tu peux pas te dire, ça va, genre, je vais pouvoir en replanter dans la saison. Non. Tu dois produire. Donc, c'est une situation où c'est un peu un cul-de-sac. Si on connaît pas bien les tenants aboutissants de tout ça. Mais derrière, il y a quand même énormément d'organismes qui se battent pour développer des molécules qui soient moins dangereuses pour les agriculteurs, qui soient plus adaptées aussi à l'usage qu'on en fait, tout simplement, à éviter de cibler trop large aussi, ce qui pourrait impacter quand même toutes les autres espèces environnantes. Donc, voilà. Après là, c'est vraiment pas ma spécialité, hein, c'est vraiment de ce que j'ai vu. Moi, c'est plus voilà, dans tout ce qu'il peut y avoir derrière.
Je me demandais si c'était aussi, parce que là, du coup, tu me parles, c'était pour, du coup, éviter les nuisibles, mais je me demandais s'il y avait, du coup, une sorte de dépendance du sol même, tu sais, du fait que le sol s'habitue à ces pesticides, et du coup, au moment où, justement, il y a une nouvelle culture, etc., ou toujours la même culture, il sera moins productif. Est-ce que tu penses que ça peut jouer, ça, ou c'est seulement pour les nuisibles, ou la terre, justement, ne s'habitue pas à tout ça? Parce que, tu sais, on dit en général que... Quand on veut passer d'un terrain agricole en bio, il faut attendre je ne sais pas combien de temps, une centaine d'années, pour que tous les pesticides s'en aillent, en fait. Parce qu'il y a une sorte, du coup, d'habitude, la terre à stocker, quoi.
Ouais, alors c'est pas vraiment une... Ouais, c'est vraiment un stockage, c'est pas trop une habitude, parce que d'habitude, tu pourras en parler pour des engrais azotés ou phosphorés, mais là, c'est vraiment le fait que le sol accumule de ouf, parce qu'en fait... Ce qui accumule dans le sol, en gros, t'as trois éléments, t'as le sable, le limon et l'argile. Et en fait, l'argile, c'est un élément qui a, en gros, des feuillets électrostatiques. C'est un peu comme un millefeuille. C'est comme si t'avais des aimants à l'intérieur d'un millefeuille, en gros. Et que du coup, ces petites interactions électrostatiques, elles attirent de ouf, donc l'eau, déjà. Et aussi toutes les petites molécules qui peuvent se former. Donc on parle de complexe argilo-humique, donc c'est vraiment le truc qui sert à donner de la densité au sol, et c'est dans ce complexe là que t'as certaines molécules, donc qui vont se fixer plus ou moins fortement au sol. Et en fait, le temps que l'eau érode les liaisons chimiques et les décroche, des fois ça prend mais 50-60 ans, enfin on s'en sort pas, enfin t'as beau faire des carottages de sol et les analyser, tu retrouves toujours des trucs, même si on met en bio depuis 20 ans. C'est problématique.
Ouais, c'est fou. Ok. Et du coup, les résultats de ton étude, parce que du coup, toi, tu as analysé tous ces pesticides, l'impact de ces... Enfin, du coup, déjà, la présence, tu as cartographié, donc du coup, tu as analysé la présence de ces pesticides dans le milieu aquatique. Qu'est-ce que ça a donné, du coup?
Alors, du coup, ça donne que... Moi, l'objectif, c'était vraiment de voir... de comparer aussi les molécules, du coup, utilisées actuellement et celles qui ont été déjà interdites depuis plusieurs années, voir si on les retrouve encore. Donc, notamment la chlordécone, j'en retrouve mais des quantités, mais c'est... Même moi, je savais pas que c'était possible, en fait. Hein. Quand j'ai vu les résultats, j'ai cru que mes machines étaient pétées, parce que c'était beaucoup trop. Beaucoup trop, bien trop au-delà des normes et de tout ce qui était autorisé, en fait, même encore maintenant. Donc là, on n'y est pas du tout. Et par contre, t'as aussi d'autres molécules qui sont retrouvées encore en trace. Donc là, t'as un peu deux options. Soit c'est des molécules qui sont encore stockées dans le sol et que bah voilà, on peut pas y faire grand chose, quoi. C'est le sol qui émet son stock, en gros. Soit c'est des fins d'usage, donc ça veut dire que c'est des gens qui ont gardé des barils chez eux. Sincèrement, des fois t'as des gens, ils savent pas vraiment, enfin ils font pas vraiment attention, quoi. T'as un baril sans étiquette qui reste, bah du coup tu l'utilises. Enfin, tu sais que c'est un insecticide, bah tu le mets et voilà, bah c'est comme ça. Et puis après, t'avais aussi d'autres molécules qui sont utilisées encore actuellement. Donc là, l'objectif, c'était un peu de voir s'il y avait pas moyen de faire un peu évoluer la réglementation. Donc, en fait, ce qui aurait pu faire évoluer la réglementation, c'est de voir que ces molécules-là étaient présentes en trop forte concentration. En l'occurrence, c'est pas le cas. Les molécules qu'on retrouve le plus, c'est principalement l'AMPA, qui vient du glyphosate. Sauf que ça respecte les normes de rejet fixées par la DCE, donc c'est la directive cadre sur l'eau. Et donc, pour l'instant, c'est tant que cette directive-là n'évoluera pas, ces molécules-là sont toujours utilisées. Ça sera pas de soucis.
Ok. C'était en termes d'impact. Parce que du coup, ouais, donc là, tu as analysé toi la présence, mais est-ce que tu as eu la chance de pouvoir, enfin, l'occasion plutôt, d'en analyser les impacts sur la biodiversité du milieu aquatique? Ou est-ce que par déduction, est-ce que tu pourrais savoir quels seraient les impacts de ces pesticides sur les milieux aquatiques?
Alors, actuellement, non, parce que j'ai pas fait d'études écotoxicologiques. Par contre, comme j'étais sur le terrain tout le temps, j'ai beaucoup parlé avec les gens qui étaient sur place, parce que je trouve ça vraiment essentiel. Et par contre, eux, oui, ils voyaient vraiment la différence, notamment, en fait, donc en Martinique, vraiment, c'est... Dès que tu sors de la ville, t'es dans la campagne. Enfin, et donc en fait, c'est des gens qui voient la rivière, ça fait partie de leur quotidien et de leur vie. Et une fois, je me souviens, j'étais allée chez une dame et on lui demandait un peu comment avait pu évoluer la rivière depuis à peu près 10 ans. Et elle nous disait, bah avant on pêchait au crabe, maintenant on n'en trouve plus. Avant on pêchait la crevette, enfin pas la crevette du coup, l'écrevisse, on n'en trouve plus parce que bah voilà, elles sont impropres, soit ils estiment qu'elles sont impropres à la consommation parce qu'ils savent très bien qu'il y a des pesticides dans l'eau, soit ils n'en trouvent plus parce que bah il y en a plus du tout, quoi. Pareil, ils me disaient avant il y a plein de petits poissons, on n'en voit plus. C'est vraiment, puis en plus c'est vraiment des moments compliqués parce que bah tu vois très bien que là, enfin c'est pas des chiffres, c'est des humains derrière. Et de voir des gens un peu totalement dépités à se dire, bah voilà, avant, enfin, ça fait des générations qu'on vit là, enfin, depuis quand elle était assez âgée, cette dame, elle me disait, quand j'étais petite, c'était vraiment, donc à Pâques, vraiment, c'est la tradition, c'est d'aller chercher le crabe, qui s'appelle le matoutou. Et là, elle disait, enfin, voilà, ça entrave même nos traditions, parce qu'on trouve plus de crabe, quoi. Donc, c'était triste de la voir peiner comme ça, puis derrière, voilà, elle nous expliquait, bah, il y a 2 ans, j'ai perdu ma tante ou j'ai perdu mon fils, des trucs comme ça. Enfin, des gens qui sont morts d'une contamination aux pesticides probable, hein, qui sont morts de cancer de la prostate ou de cancer du sein. Donc c'est, ouais, tu sors de là, tu souffles un coup.
Un truc directement relié à ces pesticides. Ouais, donc t'as fait une étude sociologique en fait sans même le vouloir, tu vois, de l'impact de ces pesticides. Sur l'humain, c'est vrai que ouais, tu vois, ma question, ouais, c'était vraiment l'impact sur la biodiversité du milieu aquatique, mais oui, enfin il y a l'impact humain aussi, ouais. qui est primordial. Totalement. Aussi, mais tu vois, cette problématique, il faut en parler parce que comme on s'est dit au téléphone wow, ma voix là comme on s'est dit au téléphone, c'est la problématique que toi tu as étudiée en Martinique. c'est ton étude de cas, mais c'est aussi quelque chose que l'on retrouve partout, en fait.
C'est ça.
Partout dans le monde, dès qu'il y a une rivière à côté d'un terrain agricole. Est-ce que, du coup, est-ce que tu aurais des exemples d'études de cas qui se passent en ce moment en France ou pas?
D'études de cas, bah, il y en a plein, en fait. En fait, il faut savoir que la Commission européenne, elle autorise ou pas certaines molécules. Donc, c'est un peu tout le temps sur la table. Tu as une liste, en gros, alors, c'est fait en plusieurs axes. T'as une liste noire en gros, donc ça c'est les molécules vraiment interdites. Après, t'as une liste de surveillance. Donc là, c'est des molécules qui sont étudiées en permanence dans l'environnement, donc testées en gros. Et ça permet, si jamais les seuils réglementaires sont dépassés, de tout de suite déclencher l'alarme et de mettre en place des procédures d'interdiction. Et derrière, donc ça c'est au niveau européen. Après, au niveau plus mondial, je sais pas trop comment ça se passe, mais il faut savoir que tout ce protocole-là d'interdiction, ça prend vraiment du temps. Et que derrière, en fait, une molécule qui est interdite sera majoritairement toujours remplacée par une autre. Et le problème, c'est que cette autre molécule, derrière, en fait, à chaque fois qu'une molécule entre sur le marché, on fait des études écotoxicologiques sur la molécule mère et les produits de dégradation. Ça prend pareil des années. Donc, en fait, le temps d'étudier l'impact de toutes les molécules, c'est très long et interdire une molécule, parfois, malheureusement, c'est encore plus dangereux que enfin, que de la laisser là en fait, parce que du coup, tu ouvres la porte à des molécules potentiellement affreuses dont on ne connaît pas encore l'impact et qui mettraient en danger encore plus la population. Donc c'est un peu la roulette russe des fois.
En termes d'exemple, du coup, est-ce que tu en as pour la France ou
Pour
pas?
la France,
Genre la France métropole.
une seule, ce serait compliqué. Mais en fait, t'en as plein. Plein, 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 plein. En fait, ils font ça tout le temps. Je crois que si tu veux regarder un peu plus, t'as les docs de l'INERIS. Et eux, ils font pas mal de. Ouais, c'est un peu leur
Ok.
spécialité.
Et parce que du coup, là, ouais, c'est vrai qu'on parle. C'est très négatif ce qu'on dit. Parce que bon, c'est ultra triste. C'est vraiment triste ce qui se passe. Mais est-ce que. Côté positif, parce qu'on va toujours positiver dans ce
Bien
podcast
sûr.
quand même. On va essayer de faire sourire le monde un peu. Il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la
Mais
musique, il y a de
oui.
l'espoir. Quelles seraient, enfin, du coup, pour toi, les solutions pour résoudre ces problèmes, en fait? Que ce soit à grande échelle, petite échelle,
Et
n'importe.
bah déjà, nous, enfin notre génération, en fait, il me semble que. Alors c'était un de nos profs qui s'appelle Thierry Ruiz qui nous avait dit ça. Ça m'avait retourné la tête, mais positivement, c'est que oui, voilà, c'est notre génération qui avons la majorité des solutions en main. Parce qu'en fait. On a les enseignements, on se forme, on se renseigne, on est hyper sensibilisé là-dessus. Et derrière, en fait, on est totalement à même de trouver des solutions et de les apporter. Il y a une moto qui passe. C'est vraiment nous qui avons tous les outils en main pour essayer de faire progresser les choses. Alors, heureusement, la génération précédente a quand même essayé de faire le mieux qu'elle pouvait, mais on a de quoi faire. Aussi. Largement. Mais c'est aussi, enfin, t'as énormément d'entreprises qui se créent, enfin, en commençant par celle que j'ai intégrée. Là, j'ai fait exprès d'intégrer, en fait, je faisais étudier toutes les pires cas qui pouvaient arriver, en fait, pour derrière se dire, OK, donc, on a tel, tel, tel problème. Enfin, où est-ce que je veux aller, quoi? Et t'as plein d'entreprises, en fait, qui créent, c'est des green tech, qui essayent d'apporter des solutions et qui, derrière, bah, œuvrent, en fait, pour apporter un monde meilleur, en fait, clairement, régler les problèmes. T'as énormément d'associations aussi qui se mobilisent, enfin, t'as interviewé Rémi il y a quelques semaines. Enfin, l'observateur de Banyuls, il développe énormément de choses derrière. Enfin, t'as beaucoup beaucoup d'entreprises qui se mobilisent. Et puis derrière, on commence à crier un peu fort. Donc ça commence à s'entendre tout ça. Et il serait temps. Et du coup, je pense que
Ouais. Mais c'est trop bien que tu parles de ça, du fait que notre génération, justement, ouais, on est celle qui doit prendre, enfin, comment dire, pas prendre, enfin, oui, il faudrait qu'on prenne les choses en main, tu vois, mais et surtout du fait par rapport à la recherche et aux connaissances. Je trouve que c'est un sujet ultra important parce que c'est vrai que nous, notre génération, on est l'une des premières, tu vois, à avoir eu dès le collège et le lycée des matières où on apprenait à chercher la documentation sur Internet. Contrairement à nos parents qui, eux, sont confrontés, tu vois, maintenant à l'émergence d'Internet, de ce surplus de connaissances, d'informations, ils savent même plus comment les trier. Du coup, je pense que c'est même plus la génération qui font face aux fake news, enfin, qui se prennent les fake news en pleine tête. Alors que nous, tu vois, on a plus de recul sur ça. savoir comment trier l'info et tout. Et ce qui fait qu'on a un pouvoir énorme, en fait. Enfin, je trouve. Et c'est pour ça que, enfin, moi, j'ai décidé de d'abord interviewer vous, mes potes. mes potes, et même, il y en a, je connais pas trop, mais que j'ai croisé, qui sont jeunes. On a tous à peu près le même âge, dans la vingtaine. Et... qu'est-ce qu'on est fort en termes de connaissances, tu vois. Enfin, moi, je le dis, enfin, moi, parce que je suis ultra curieuse, du coup, d'apprendre ce que vous savez. Et je me dis, putain, c'est fou. À notre âge, tout ce qu'on sait, c'est trop bien, en fait. Et il faut qu'on parle. Et justement, ce qui fait que c'est qu'on est légitime à parler, en fait. Et c'est ça, tu vois, quand je t'avais demandé de venir sur mon épisode premier, il y a quelques mois, tu m'avais dit... Mais je suis pas légitime à parler. Mais bien sûr que si. Enfin, là, tu nous as fait un cours, mais waouh, mais super intéressant. J'ai appris des trucs, tu vois, même si j'ai participé à la soutenance de Pascaline pour ce stage-là.
Mais
pour moi, on a tellement une légitimité à parler parce qu'on est les jeunes experts, genre de demain. Et enfin, mais d'aujourd'hui surtout, ouais. Tu vois. Et non, Pascaline, tu as toute ta légitimité à parler et surtout, enfin, c'est super intéressant.
Ah, merci. Voilà, en plus, ouais, t'as que l'audio, mais parce que ça se voit pas que je parle avec les mains là. mais ouais. Enfin, tu. En fait, moi, j'ai un peu toujours ce syndrome de l'imposteur à dire ouais, enfin, j'ai juste postulé, genre c'est tout. Enfin, après, j'ai fait mon taf. Mais en fait, c'est vraiment tout ce côté humain derrière où, enfin voilà, de dire mon travail fait sens et il sert à quelque chose et derrière. Effectivement, on a un énorme accès à la connaissance, mais en fait, c'est bien beau d'y avoir accès et de lire des choses, mais après, le savoir, après, le tout, c'est ce qu'on en fait, en fait. Enfin, il y a des gens qui sont parfaitement conscients de ce qui peut se passer, sauf qu'en fait, bah, tu vas pas forcément avoir la motivation ou l'envie, ou je sais pas, ou le... Tu sais, le truc qui... la rage qui te brûle dans le ventre et qui t'as envie de chercher le truc, quoi. Enfin, moi, je sais que l'injustice, c'est un truc qui me rend malade, et de voir... Ouais, le sujet de pesticides, c'était un sujet que je connaissais depuis longtemps. Puis t'as plein d'autres sujets de pollution qui étaient, qui sont très 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 problématiques. Et là, vraiment, de me dire, ok, genre, c'est bon, genre, j'y vais. Je me fais 7000 km et on est parti. Et on va mettre les pieds dans le plat et on va voir ce qu'on peut changer. Et en fait, on peut tous faire ça. Je m'en suis rendu compte. Enfin, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et derrière, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est hyper moteur de se dire, non seulement je suis légitime, en plus j'ai les capacités, et puis c'est parti, il y a rien qui peut m'empêcher d'y aller. Ouais, enfin, peut-être pendant une semaine, je vais être toute seule dans la forêt tropicale, à me faire bouffer par les moustiques et avoir, des deux tiers du corps immergé dans l'eau. C'est pas grave, en fait, derrière, ça sert à quelque chose. Mais c'était un quotidien incroyable, enfin, vraiment, c'était très intense, hein, j'étais claquée à la fin de la journée, mais j'avais, des fois, j'avais 5 tenues en une journée. Enfin, j'allais au travail, déjà en Martinique, tout est décalé, donc, je me lève à 5h du mat, papapap. Je pars au travail, enfin, 5h30, on va pas abuser non plus. Moi, j'allais au travail, en 4x4, j'arrive, je mets ma tenue de terrain, on se barre sur le terrain dans la forêt pendant 4-5 heures. Après, je reviens pleine de boue, je me change. Je vais dans mon laboratoire pour faire mes petites préparations d'échantillons parce qu'il fallait que je les conditionne pour les ramener ensuite en métropole. D'ailleurs, belle expédition d'échantillons, c'était tout un périple. Et derrière, j'allais mettre mes habits de bureau pour faire un petit peu de traitement de données quand même. Et après, je me rechangeais. Bon, bien sûr, après l'après-midi, je mettais mon maillot de bain et j'allais plonger. Hein. Faut pas déconner non plus, mais c'était intense. C'était génial.
Bah, pour les jeunes étudiants qui nous écoutent, vous savez ce qui vous attend maintenant si vous allez faire votre stage en microbio en Martinique, en Syrie.
Mais ouais, c'est les études de terrain, vraiment, c'est incroyable. Enfin, j'avais jamais expérimenté ça aussi longtemps et dans des conditions aussi extrêmes. Ah, j'étais pas en Antarctique non plus, mais c'était quand même pas rien. Mais ouais, c'est trop cool.
Je crois que moi, l'étude de terrain la plus extrême que j'avais faite, je te l'avais racontée, c'était dans un bureau d'études en GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Et on était dans une petite barque de 1 mètre sur 1 mètre. On était deux et on devait longer sur 5 km un cours d'eau pour mesurer la vase. Mais on mesurait la vase manuellement, quoi. Oh là, j'ai fini la journée. J'ai pu et je sentais mauvais. Enfin, manuellement, tu sais, on avait une sorte de... de grandes règles qui se pliaient, tu vois, qui faisaient, je pense, 4 mètres de long. Et à chaque fois, on devait la tremper, mesurer la hauteur de boue, la hauteur d'eau. Enfin, c'était... Mais ça me fait un super bon souvenir, c'était super drôle, mais à la fin de la journée, qu'est-ce que j'avais mal partout, parce qu'on, du coup, on y allait à la rame. Enfin, non, on ramait et en même temps, on appuyait notre rame sur le sol pour pouvoir avancer. Et ça avait duré, mais toute une journée, c'était... Enfin bref, ces études de terrain incroyables dans le milieu de l'eau, c'est fantastique. Je recommande.
Ah ouais, c'est génial, mais c'est pour ça aussi que ça me fait énormément rire, parce que t'en as quand même presque plus, mais en science, t'as quand même pas mal de... Enfin, t'as quelques machos, et qui nous prennent un peu pour des petites princesses, et quand t'arrives couverte de boue, t'as ravé dans la vase, ou que moi j'étais en 4x4 dans la boue pendant toute une matinée, t'es tombé en panne, t'as réparé ton truc et tout, t'es là, alors, c'est qui la princesse?
Mais ça c'est un sujet, de la présence des femmes, enfin les femmes dans le milieu scientifique, hein, parce que ça aussi j'aimerais en faire un épisode, mais on peut en parler aussi, c'est fou le machisme qu'il y a encore, le patriarcat qui est ultra marqué dans ce milieu-là. Moi je sais que le nombre d'études de terrain que j'ai fait, et même là récemment, on s'adresse à mes collègues masculins, et pourtant qui sont gradés soit au même titre que moi ou moins. Et pourtant, on s'adresse à eux, tu vois, en premier. Et puis bon, après, ils sont là, mais non, mais si vous avez des questions, vous les posez à elles, quoi. C'est pas moi qui peux répondre.
Ça arrive très souvent. Et puis en plus, moi, en Martinique, j'ai un gabarit crevette. J'arrive, j'ai mes petites bottes et tout. Et puis, c'est elle, là, qui fait son truc. Bah oui, bien sûr. Oui, en fait, c'est un peu toujours... on est obligé de faire nos preuves. J'ai l'impression encore plus fort que les autres. Et après, derrière, une fois que t'as atteint une certaine crédibilité, du coup, là, on te fait un peu plus confiance. Mais c'est un peu, oui, enfin, moi, je sais que, je sais pas, moi, quand j'ai des rendez-vous pros, je revois mon vocabulaire, mais un peu, quoi, pour éviter de dire des conneries et de me rendre compte, mince, là, je vais pas du tout être prise au sérieux si on me parle ou quoi. Alors qu'en fait, ça devrait même pas être le cas, en fait. Je suis là, j'ai mérité ma place, et au bout d'un moment, moi qui vais sur le terrain, c'est moi qui fais les expés, qui prévoit tous tes plans, respecte-moi. Alors, au CIRAD, moi, ça, j'ai presque pas rencontré ça, mais c'était plus dans la culture martiniquaise où, bah oui, effectivement, t'as un peu plus ça, même si c'est quand même, je trouve, bien moins lourd qu'en métropole, pour le coup, c'est plus nuancé, on va dire. Mais oui, après, dans les autres labos de recherche où j'ai pu aller, t'as quand même pas mal de, ouais, ce truc-là du... T'es qui pour parler de ton sujet, en gros. Alors moi c'est pas mon cas, mais t'as des filles, elles ont juste fait une thèse en fait là-dessus. Enfin, au bout d'un moment, il s'agirait de se serrer les coudes un peu dans la connaissance au lieu de forcément se justifier, mais presque, quoi. Et je sais pas si ce mot existe. Mais de sans cesse on perd du temps en fait tout le temps en essayant de se justifier, en demandant nos preuves. Au bout d'un moment, juste on est tous là pour la même cause, s'agirait de travailler ensemble un petit peu, quoi.
Je suis complètement d'accord, c'est fou. Mais bon, parce qu'on arrive à, je dis Pascou parce que c'est ton surnom, mais Pascaline pour ceux qui ne connaissent pas. Pascaline, du coup, nous arrivons à la fin de cet épisode. Alors, j'ai quelques questions pour toi. Premièrement, j'ai fait exprès de ne pas te l'envoyer d'abord. Tu vas peut-être être surprise, mais parce que du coup, ce podcast est tout de même dédié à la mer. Et je sais que tu aimes bien la mer parce qu'on adore aller nager toutes les deux avec nos combis en février en Méditerranée. Pour toi, la mer, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est?
Ça va être bateau, mais pour moi, la mer, c'est la vie un peu. Enfin, c'est un des poumons avec tout le phytoplancton qui est à l'intérieur. Enfin, c'est... Ça, moi, je suis née dans la forêt. Pas vraiment, mais je suis née à côté de la forêt. Enfin, chez moi, il y a que ça. La mer, c'était vraiment que l'été, quand j'étais petite, quoi. Mais, en fait, c'est après, c'est un élément juste fondamental de notre planète. Enfin, la mer qui après découle sur l'océan. Enfin, c'est notre poumon. C'est ce qui est le plus précieux, il me semble, à protéger avec l'humain. Et la biodiversité terrestre aussi. Mais derrière, tout part de là. Donc, c'est la base de notre petit système.
souvent les gens me répondent la vie. C'est incroyable, ça nous vient directement.
Bah ouais, mais en même temps, est-ce que c'est pas un petit peu une déformation professionnelle, mais on nous le dit, enfin c'est, on a toutes les preuves devant les yeux, là nous on peut pas dire autre chose en fait, c'est pas possible.
C'est vraiment ça. Et deuxième question, bon, cette fois je t'ai demandé de les préparer, c'est est-ce que tu aurais un ouvrage, un documentaire, un article, une thèse à nous partager ?
Oui, j'ai bien fait mes devoirs. Oui, alors c'est que, alors moi c'est l'article sur lequel j'ai basé tous mes travaux d'études en fait en Martinique. C'est un article de Pauline Della Rosa et de toute son équipe qui est paru en 2017. Et en gros, ça, c'est un article qui étudie le lien entre la pollution chronique dans les rivières et les usages historiques, en fait, en pesticides. Et voilà, donc c'est un peu, ça met en lumière différents problèmes de gestion.
Et le titre, du coup, de l'article, c'est quoi ? Tu l'as ou pas ?
J'ai essayé de le traduire en plus, là, mais ça n'a pas marché. Ça s'appelle, alors, ce magnifique accent anglais avec le roulage de R italien, ça s'appelle Linking Current River Pollution to Historical Pesticide Use. C'est, alors, Insights of Four Territorial Management.
Si ça vous intéresse de savoir quel est l'article de Pascaline, il sera dans le lien, vous pourrez le lire directement. Voilà.
Et... lisez le titre, c'est plus.
Oui, lisez le titre, ça sera plus simple. L'accent que la magnifique de Pascaline.
Ah là là, les conférences, elles vont être belles. Voilà, c'est établir un lien entre pollution actuelle des rivières et utilisation historique des pesticides, des idées pour la gestion territoriale. Voilà.
Ah, mais voilà, c'est beaucoup plus clair. Et est-ce que tu aurais...
Merci Dipel.
Ah oui, merci Dipel. Est-ce que tu aurais, pour finir, une belle citation que tu aimerais nous partager?
Tout à fait. Alors, c'est une citation qui est assez récente puisqu'elle est de Cyril Dion dans son livre qui est paru en 2022. C'est le... qui s'appelle Animal, en
qu'on
fait.
Qu'on adore.
Tout simplement, la tombe en anglais, ça suffit. Donc, cette citation, c'est un truc... Au début, je voulais dire la citation de Rémi, mais en fait, je me suis aperçue qu'il me l'avait prise. Donc, bah écoute, merci Rémi, je suis obligée de changer de citation. Mais elle me parle énormément. Et ça fait sens aussi avec ce que j'ai pu te dire avant, c'est ce monde ne peut pas changer simplement parce que nous voulons qu'il change. Il changera quand nous serons le changement nous-mêmes. Et je trouve que ça fait une belle boucle sur ce que je t'ai dit avant, sur le fait que la solution, c'est nous.
Exact.
On bouge et on va y arriver.
Exactement. Mais écoute, merci beaucoup, Pascou. C'était trop chouette de t'avoir.
Mais avec plaisir. Merci à toi.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. En tout cas, si les informations et la documentation de Pascaline t'intéressent, n'hésite pas à jeter un coup d'œil dans la description de cet épisode, tu y trouveras tout ce dont on a parlé. Sur ce, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout de cette interview et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao !